qu'avec Fabien Lellman pour la prochaine sortie de Jolies Ténèbres aux éditions du Puy, au Festival de la Bande Dessinée d'Angoulême. Bonjour.
Bonjour.
Est-ce que vous pouvez nous parler de Jolies Ténèbres? Parce qu'on a reçu quelques extraits. Pour nous, l'histoire est encore assez mystérieuse, on va dire.
Je pense que même après la lecture, elle restera pour vous assez mystérieuse. Pour comprendre un peu la BD, il faut revenir à la genèse du projet. C'est un projet qui vient des Kerasquet. Les Kerasquet, c'est un couple de dessinateurs qui sont connus maintenant, surtout pour leur travail sur la série Miss Patouche, avec Hubert au scénario, qui est une très bonne série chez Dargo. Il se trouve que ce sont aussi des amis, donc c'est un couple de dessinateurs qui signe sous le nom commun de Kerasquet. Et puis on parlait de choses et d'autres, et puis un moment, Marie, qui s'appelle Marie et Sébastien, me parlait d'une histoire qu'elle avait en tête depuis assez longtemps, et puis qu'elle n'arrivait pas complètement à formuler, et elle m'a raconté le début de l'histoire, qui est grosso modo ce qu'on découvre dans le petit dossier qui est ici, à savoir la séquence d'ouverture, qui est quand même assez mystérieuse, assez bizarre et assez morbide, et qui entremêle de manière assez étonnante le monde de l'enfance, c'est une espèce de petit univers de poupées, de princesses, de princes, de Playmobil, je dirais, et puis une espèce de situation assez choquante, qui est le cadavre d'une petite fille qu'on découvre comme ça dans une forêt. Et tous ces petits êtres que j'évoquais avant, en fait, sortent du cadavre et se retrouvent comme des naufragés, en fait. Comme si ce cadavre avait été un bateau qui s'était échoué et que ces petits êtres sortaient de cette petite fille. Alors, pour tout dire, on dévoilera pas pourquoi cette petite fille est morte et comment. Et ça fait partie d'un type de narration assez singulier, assez particulier, qui peut tout à fait choquer ou déplaire. Hein. C'est vraiment un parti pris de notre part, que du coup on a décidé de faire ensemble, avec Marie à l'origine de l'histoire et qui avait des séquences assez précises en tête pour une bonne partie de l'album, et puis moi comme sage-femme en fait, c'est-à-dire comme aide scénaristique pour l'aider à accoucher du projet et pour finaliser vraiment l'écriture avec les dialogues, des choses comme ça. Parce que là, c'était quelque chose que Marie sentait moins pour le moment, parce que maintenant, je crois qu'elle est passée complètement au scénario sur un autre projet. Donc c'était une espèce d'œuvre de transition, j'ai l'impression, et qui surtout leur a permis, comme vous avez peut-être pu le voir en voyant le dossier, d'aborder leur dessin d'une autre manière, avec des couleurs directes que je trouve personnellement assez somptueuses. Et en gros, quand je voyais tous ces éléments réunis, donc les croquis qu'ils avaient faits, cette idée de départ complètement bizarre, je me suis dit, écoutez, moi je veux voir ce projet exister. Donc d'accord, on prend du temps pour le faire ensemble, ça reste quand même vraiment le projet de Marie, essentiellement. Mais moi, j'étais là pour aider à ce qu'il existe.
Un départ un peu morbide, mais après, c'est très féerique, puisque toutes ces petites créatures se promènent dans la forêt, découvrent le monde, et puis c'est bien joyeux quand même, des couleurs jolies.
Au début. C'est-à-dire qu'en fait, il y a toujours une espèce comme ça de contraste avec on joue avec le lecteur, avec un début qui est très très choquant. Après, ça se transforme un peu en une forme de ce qu'on appelle une Robinsonade, c'est-à-dire des personnages perdus dans un, bon là c'est pas une île, mais ça pourrait être une île, c'est un univers qui pour eux est complètement étranger, qui apprennent à survivre, et au début ça se passe pas si mal, c'est une petite communauté. Simplement au fur et à mesure des saisons qui s'écoulent, parce qu'il y a une espèce d'unité de temps, ça se passe en moins d'un an, et une unité de lieu puisque tout se passe autour du cadavre, le cadavre qui pourrit, en fait, qui pourrit au fur et à mesure des saisons, et ce décor pourrissant entraîne aussi une dégradation symbolique des relations entre les personnages, qui va aller de mal en pis, en fait. Avec en particulier un petit personnage principal qui prétend s'appeler Aurore, parce que c'est elle qui à un moment se donne ce nom-là. Parce qu'il trouve le carnet de texte de la petite fille avec écrit Aurore dessus, et elle dit c'est moi qui je m'appelle comme ça. Donc ce petit personnage qui vraiment a plein de bonne volonté, qui veut que tout se passe bien, et puis qui s'en prend plein la gueule au fur et à mesure du récit. Et donc il y a bien entendu quelque chose qui est de l'ordre du récit initiatique. Mais là encore, on essaie de jouer un peu avec les codes, de faire quelque chose qui puisse... On m'a fait une assez belle critique récemment de l'album d'un ami scénariste qui a pu le lire en entier. Mais du coup, je l'ai fini, j'ai pas su si j'avais adoré ou si j'avais détesté. J'aime assez cette description-là parce que, de fait, c'est pas un album facile. Mais par contre, il est assez dérangeant et en même temps, c'est exactement ce qui m'a, moi... beauté sur ce projet, et en même temps je trouve facile d'accès par le graphisme parce que c'est magnifique, mais dérangeant sur le récit, et c'est ce qui pour moi fait la force du projet.
Donc plutôt un public adulte ou différents niveaux de lecture, parce que le dessin effectivement est assez, on va dire, naïf, enfantin.
Alors c'est cette question qui souvent se pose sur mes bandes dessinées, de savoir pour qui ça s'adresse, là pour le coup ne pose aucune question, c'est vraiment clairement pour les adultes, parce que même si l'univers est enfantin et au départ donne cette impression là, le simple fait que ce cadavre soit toujours en arrière-plan rappelle la teneur adulte de l'histoire, Je note d'ailleurs au passage que le graphisme est différent pour ces deux niveaux-là, c'est-à-dire les petits personnages joyeux sont dessinés de manière très enfantine et le cadavre par contre est dessiné de manière réaliste, et c'est ce contraste qui apparaît dès la couverture d'ailleurs, qui fait aussi partie pour moi de la force du projet. Mais par contre je préfère prévenir, c'est vraiment pour adultes, et que même les adultes, il y en a certains qui vont pas aimer ça, c'est clair.
Un seul tome ?
Oui, c'est une histoire complète, avec un type de fin qui peut-être peut justement laisser sur sa fin certaines personnes. C'est pour ça que je préfère prévenir que le but pour nous n'est pas de révéler pourquoi cette petite fille est morte ou comment ou quoi. On laisse justement une grande part à l'imaginaire du lecteur pour reconstituer ce que lui pense s'être passé ou pas. Nous par contre on s'intéresse juste au cheminement mental de cette petite créature qui dit s'appeler Aurore et de son apprentissage de la cruauté du monde. En fait c'est à peu près ça la thématique.
Au niveau du prénom Aurore, il y a une influence revendiquée ou non ?
Non, c'était, on aimait bien l'idée de quelque chose d'un peu brillant, d'un peu lumineux, alors même que l'ensemble du récit est assez sombre. Au début, quand c'était juste une étape de projet pur, on l'appelait Alice, parce qu'il y avait un côté un peu Alice au Pays des Merveilles, un peu twisté, et puis on s'est dit, bon, l'appeler Alice, ça serait un peu trop énorme quand même, justement, la référence serait écrasante, d'autant qu'elle est souvent réutilisée dans les bandes dessinées. Donc, non, c'était plus dans ce cadre-là qu'on a finalement opté pour Aurore, mais elle a changé de prénom un certain nombre de fois, donc on a fini par opter pour celui-là.
Vous êtes en compétition actuellement sur le festival avec un album, un cinquième tome, La Chambre de Khéops. Qu'est-ce que ça fait d'être en compétition sur un festival comme Angoulême ?
Alors, je préfère d'ailleurs dire nominé qu'en compétition, mais cela dit, vous avez raison, c'est le cas. Parce que justement, c'est un peu ce qui... J'ai un sentiment très contrasté par rapport à ça. C'est à la fois, bien sûr, la joie, parce que on a beau dire, c'est toujours agréable d'être un moment reconnu par un jury. Après, je garde en tête d'une part que c'est assez subjectif, je veux dire par là, il y a de très bons albums qui sont pas dans la sélection, et puis d'autres qui, moi, me plaisent pas qui y sont. Je dis pas qu'ils sont mauvais, mais ils ne me plaisent pas. Donc, il faut garder en tête que ça reste un peu comme un billet de loto. On est content quand on a gagné le loto, mais je veux pas non plus en tirer un orgueil trop important. Et puis là encore, j'aime pas tellement cette idée qu'on va me dire à un moment, cette BD est meilleure que telle autre. L'idée de la meilleure BD, par exemple, je dis pas, si j'avais ce prix, je serais fou de joie, parce que je ne crois pas que je l'aurais, hein, je précise bien. Mais si j'avais un prix comme ça, je serais fou de joie, mais là encore, j'essaie de prendre un peu de recul avec ça. Parce que, donc voilà, je suis dans ce contraste, d'être à la fois très content d'y être, parce que c'est quand même une belle reconnaissance, et à la fois de pas essayer de trop prendre ça au sérieux, d'autant que je m'attends vraiment pas à être primé. C'est-à-dire que la série Le Marquis d'Anaon, je suis très content qu'elle y soit, parce qu'elle est justement beaucoup plus classique dans sa facture que beaucoup de BD qui sont sélectionnés d'habitude à Angoulême. Mais de là à être primé et d'aller jusqu'au bout, ça me paraîtrait un peu énorme. Donc voilà, je suis content d'y être, j'irai à la cérémonie et puis je me bourrerai la gueule après pour fêter mon non-prix.
Vous avez été vendu par vos collègues, donc apparemment vous êtes un très bon chanteur de rock. Est-ce que vous envisageriez de faire une... BO pour Jolies Ténèbres?
Je crois qu'il faudrait demander à Marilyn Manson, peut-être. Non, parce que j'aime bien l'idée, justement, que le lecteur se fait sa propre musique sur les albums. Autant quand on les fait, souvent on écoute un peu de la musique et tout, mais j'aime bien cette idée d'un médium silencieux. Que justement, on peut s'accaparer dans son coin d'un truc un peu méditatif. Là où le cinéma, qui cela dit est justement hyper efficace et que j'adore, mais impose une tonalité au spectateur en mettant une musique donnée, on peut tirer des larmes à un spectateur avec une musique qui est très touchante, alors même que l'image ou l'histoire est pas si touchante que ça. La BD de ce côté-là est moins manipulatrice. Donc je garde cet aspect silencieux et je réserve mes fantastiques dons de rock'n'roll pour les quelques concerts que j'ai pu donner ça et là, et parfois pas toujours si bons que ça d'ailleurs. Je préfère briser immédiatement le mythe pour décevoir personne.
Le nom de ce groupe ?
C'était le groupe Slumberland, avec des auteurs de bande dessinée. En fait, on a un peu écumé comme ça les festivals où jouait, par exemple, où joue encore Pierre Boisserie, le scénariste, ou Juanro Guarnido, le bien connu, ou Stéphane Siro, ou Agnès de la boîte Atacus qui fait les petites figurines. Mais je reconnais que là, ça fait assez longtemps que je me suis permis, faute de temps. Les répétitions me prennent beaucoup de temps. Et malgré ce que vous venez de dire qui me flatte, je suis pas certain d'être toujours aussi bon que ça en chant. Donc pour l'instant j'ai levé le pied, on verra si un jour je reprends ça.
Merci beaucoup.
Merci à vous.